Joseph Massescaron nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Joseph.
Bonsoir Bernard.
Merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu nous voir dans les studios pour parler directement aux auditeurs. Vous êtes l'auteur d'un nouvel ouvrage,
oui,
paru aux éditions Les Presses de la Cité, qui s'appelle La Croix des Ténèbres. Et alors, vous vous initiez à un nouveau style. Vous avez écrit combien d'essais?
La question piège. J'ai dû écrire à peu près 6 essais et 2 ouvrages, un ouvrage collectif et 2 ouvrages, l'un avec un journaliste Michel Chamard et l'autre François Bazin de Nouvel Observateur.
Enfin, vous êtes un expert, on vous voit sur tous les plateaux télé, vous avez dirigé de grandes rédactions comme Le Figaro Magazine ou Marianne ou le magazine littéraire. Mais alors là, vous vous essayez un style tout à fait nouveau, c'est le roman policier.
Oui, tout à fait. En fait, c'est en 2021, les Presses de la Cité, qui, je le rappelle, éditent Simenon, Georges Simenon, sont venus me chercher parce qu'ils voulaient agrandir leur cheptel de lecteurs et ils m'ont proposé d'écrire un roman policier. Je suis un lecteur, certainement comme vous, de romans policiers. Et je me disais, mais est-ce que j'ai le droit, la légitimité? Et puis, parce que moi, je plaçais très haut le genre, alors que parfois le genre est dévalué. Il y a beaucoup de gens qui le regardent de très haut, notamment dans ce qu'on appelle la littérature blanche, entre guillemets. Il y aurait une littérature noble et puis une littérature moins noble, qui serait la littérature populaire. Moi, je n'ai jamais ressenti que ça, hein, parce que pour prendre un exemple, pour moi, il y a des éléments policiers dans la Bible, chez Balzac, Peau de chagrin, c'est un roman policier aussi.
Bien entendu. Rubin Pré.
Et puis, absolument. Donc, j'ai tout de suite dit oui. Et puis on m'a dit, mais il faut que le lieu soit un des acteurs, bien sûr, du roman policier. Donc j'ai pensé à un lieu que je connais très très bien, mes grands-parents sont enterrés là-bas, qui est Étretat. Et voilà. Et à partir de là, j'ai fait un premier ouvrage qui s'appelle La Falaise aux Suicidés, puis un deuxième, j'ai changé d'atmosphère dans le sud de la France, qui s'appelle La Reine Jaune, qui se passe à Roquebrune-sur-Argens, qui est le lieu, pour la petite histoire, où on a vu pour la dernière fois du pont de Ligonnès, et où là-bas, 80-90% des gens que je connais, je les connais bien, et ma belle-mère, habite là-bas. Je ne tue pas ma belle-mère dans le polar, je rassure, mais ils pensent que du pont de Ligonnès, vivant ou mort, est toujours là-bas. Oui, absolument. Donc, j'ai fait un deuxième roman, la Reine Jaune, qui parle pas seulement du pont de Ligonnès, mais aussi du Var, des pratiques politiques, et déjà, je pointais le bout de l'oreille parce que je dénonçais une forme d'écologisme sectaire qui a d'ailleurs comme ligne pour qu'arrive à une écologie intégrale, il ne faut plus avoir d'enfants. Voilà. Ça, on ne met pas la terre en danger. Et j'ai vu des personnes comme ça, hein, parce que là-bas, dans le Var, c'est le royaume des sectes qui poussent plus vite que le mimosa. Donc en fait, avec ça, je me suis rendu compte, et pardon de cette digression, j'en suis rendu compte, pourquoi le polar ? Après avoir fait des essais. J'ai fait des essais, j'ai écrit beaucoup pour dénoncer le communautarisme, l'identitarisme. Je me souviens, mon premier ouvrage a été La Tentation communautaire, et dedans, qui est paru à la fin des années 90, dans lequel je disais, mais peut-être que demain, les Français juifs seront étrangers dans leur propre pays. Je me suis pris des salves de, de sociologues en tout
mais
genre.
Mais peut-être moi, je ne vous aurais pas cru à l'époque.
Mais
même moi, je ne vous aurais pas cru.
Non, pas vous. Pas vous, parce que vous étiez... je me rappelle, vous avez toujours été extrêmement curieux. Donc vous m'auriez d'abord demandé de vous expliquer pourquoi voilà. Et en fait, donc j'ai pris plein la tête. Et même chose, quand j'ai commencé aussi à faire des romans de fiction, des romans, ce qu'on appelle littérature blanche, on m'a dit, le héros, c'est vous. Vous êtes comme ceci, il fait ceci, vous faites cela, vous pensez ça et tout. Alors que le roman policier, c'est une liberté totale. La personne, vous pouvez écrire, ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'assassin, c'est la victime, c'est le flic. Et en fait, vous pouvez faire passer toute une marchandise de contrebande dans la cale qui vous permet de critiquer la société dans laquelle on vit.
Alors, mais c'est pas vous qui le dites.
C'est pas moi qui le dis. Alors, c'est ce qu'ont compris beaucoup, pardonnez-moi, c'est ce qu'ont compris beaucoup d'auteurs de romans policiers. Seulement eux, beaucoup viennent de la gauche, faut pas se mentir, et donc ils réduisent cette critique à une critique sociale extrêmement virulente et qui est nourrie, disons, de thèmes qui sont chers à la France insoumise.
Alors, vous, c'est pas le cas.
Non.
Et fier. Et par exemple, bon, alors, déjà, vous aimez passer de différents univers, de voir un peu les passerelles qui vont de l'un à l'autre, etc. Et par exemple, vous parlez du Mufti de Jérusalem. Alors là, oui. Vous allez encore vous faire des amis. Le Mufti de Jérusalem, c'est une grande figure palestinienne, donc icône, mais surtout par les temps qui courent. Mais il se trouve que c'était quelqu'un qui était clairement nazi, quoi, et qui a proposé de. Qui a collaboré même.
Ah oui, il a proposé un deal très très clair, bien sûr, à Adolf Hitler, lorsqu'il. D'abord, enfin, avant de le voir, puis ensuite quand il l'a vu, le deal était le suivant, c'est que Adolf Hitler lui donnait l'assurance qu'aucun juif d'Europe de l'Est ne viendrait s'installer en terre d'Israël. Aucun. Pour arrêter, voilà. Et évidemment, bien sûr, Hitler l'a fait sur le mode. Non, j'en prends l'engagement. Et on voit que
il a tenu son engagement.
Il a tenu son engagement. Je veux dire, c'est tellement terrible comme échange. Et en fait, c'est la période, le grand Mufti de Jérusalem, c'est la période, bien sûr, qui va de la Première Guerre à la Seconde Guerre mondiale, où il y a un grand nombre de pogroms, d'assassinats de juifs, en terre d'Israël. Enfin, c'est très, très, très frappant. Et en fait, ce grand Mufti Husseini, qui était une grande, grande famille palestinienne. Hein,
Husseini, c'est une des grandes familles
palestiniennes. Grande, très grande famille palestinienne, n'a jamais été inquiété. Jamais. Jamais. Il a continué à exercer son magistère spirituel et intellectuel sur les Palestiniens. Il a fallu attendre réellement la création de l'OLP. Parce que l'OLP est né de ce qu'on appelle le baasisme, c'est-à-dire l'idée qu'il puisse y avoir des Arabes laïcs.
Le nationalisme arabe.
Le nationalisme arabe, bien. Et il a fallu attendre, en fait, l'OLP pour que les débuts de l'OLP, pour que vraiment son magistère spirituel s'efface.
Et encore, donc, c'est un Faisal Husseini qui ensuite a représenté les Palestiniens à la conférence de Madrid. Donc c'est une très grande famille.
C'est une très grande famille.
Et jamais inquiété.
Non, pas de... Non,
grand
jamais.
Collaborateur devant l'éternel. Vous parlez aussi de la 13e division.
Voilà. Alors, la 13e division, ça c'est aussi quelque chose qu'on n'aime pas évoquer. La 13e division, qui s'appelle la division Anschar, a été créée par Himmler. Et c'est une division qui a comme particularité d'être composée exclusivement de quelques dizaines de milliers de musulmans bosniaques. Voilà. Donc, ces musulmans bosniaques, ils ont d'ailleurs été passés en revue par le grand Mufti de Jérusalem, hein, qui est venu lui-même à Sarajevo pour les passer en revue. Il y a des photos, hein, les gens qui nous écoutent.
Oui, j'ai vu les photos.
Je les invite, vous les avez vues, voilà. Mmh. Avec le fez, et sur le fez, l'aigle nazi ou la svastika. D'accord ? Ce qui est quand même. Enfin, là, ce sont des choses qui sont. Parce qu'il y a des personnes qui continuent de nier ça. Le pire. Ils continuent de nier ça. Je comprends pourquoi ils le nient. Il le nie parce que le fait qu'il puisse exister une forme de nazi-islamisme, c'est pour eux c'est impensable. C'était totalement impensable. Donc le grand Mufti de Jérusalem et en gros le sergent recruteur là-bas, c'était le Mufti de Mostar qui est lui aussi évidemment a aidé cette 13e division de sinistre mémoire à perpétrer des massacres dans les montagnes, à la fois contre les résistants et évidemment, bien sûr, contre les juifs. C'était ça.
Vous êtes quelqu'un qui écrivait beaucoup et qui lisait beaucoup. Et il y a une question que je me pose. Je rappelle au passage le titre de votre ouvrage, La Croix des Ténèbres. Et donc, on a compris la croix.
La Croix des Ténèbres, c'est la svastika, voilà. C'est la croix gammée.
Je me suis toujours posé la question. Tiens, par exemple, parmi les jeunes filles qui ont été libérées, celles qu'on appelle les observatrices, elles racontent que leurs geôliers se revendiquent d'Hitler.
Oui.
Hitler est merveilleux, regardez ce qu'il vous a fait, d'ailleurs vous montez, il n'y a pas de chambre à gaz, mais par contre il a voulu débarrasser le monde de la lie de la société. Mais comment est-ce que c'est possible pour Hitler? Il y a une échelle des races et il y a en haut des blancs, il n'y a pas des arabes. Comment ça se fait que ça marche? Est-ce que c'est une inculture complète, et puis voilà, l'ennemi de mon ennemi, donc je prends le pire ennemi de mon ennemi, ou est-ce qu'il y a une forme de logique? Le Mufti de Jérusalem n'est pas totalement idiot. Comment ça se fait que...
Il y a eu quand même des tentatives de théoriser ça. Himmler a essayé de théoriser ça. Himmler a essayé de théoriser sur le mode, à partir du moment où les Arabes sont l'instrument de l'anéantissement des Juifs, qui, les Juifs sont considérés par les nazis comme même en dessous des animaux. Hein, c'est, il faut oui, bien, bien. Pardon de ce rappel, mais il y a quand même, des moments. Dit, il faut rappeler ça, il y a des choses à rappeler.
Mengele, il dit, on peut, quand on voit qu'il faut tuer des mouches, on peut, on a, ou des guêpes, il dit, des abeilles, on peut être triste pour les abeilles, mais enfin, c'est des abeilles, il faut bien les tuer. Donc, il dit ça. Il, ou les mouches, je ne sais pas comment il dit ça. Donc, c'est même pas des êtres humains, mais ça, bon, on le savait. Mais par contre, dans cette échelle-là, et donc, comment on peut être arabe nazi ou noir nazi, excusez-moi, je ne cherche pas à pinailler, mais ça me semble tellement extraordinaire. Donc, c'est juste la haine.
C'est juste la haine.
Mais oui.
C'est la haine de ce qui, c'est la haine de ce qui est juif. Et c'est aussi l'illusion, ce que je traite dans ce roman policier.
Oui.
Je parle de, pour la première fois aussi, évidemment, bien sûr, je parle des enquêteurs, c'est un couple d'enquêteurs, mais je parle aussi de l'assassin. Pour comprendre, évidemment, pourquoi, qu'est-ce qui peut conduire au mal. C'est aussi la fascination pour une identité qui va être une identité
de force.
Que l'on estime de force, de puissance. C'est irrationnel, c'est faux, bien évidemment, mais on est tellement les gens sont tellement faibles qu'ils se choisissent une identité de substitution qui soit une identité qui, à leurs yeux, incarne tout ce qui peut être de plus disruptif et
tout ce qui est... La fascination de la force.
De la volonté de puissance.
La fascination de la force. Puissance. Alors, puisqu'on est en train de parler du Moufti, de la 13e, etc., et que vous êtes sur Radio Shalom, et que donc c'est un sujet qui est cher à nos cœurs, je vais vous poser une autre question. Comment est-ce que les milieux d'extrême gauche peuvent être fascinés comme ça par le Hamas? Comment? C'est parce que c'est un peu. Voilà, l'idée aussi que normalement, dans mon camp à moi, moi je ne peux pas être comme ça. Donc, moi je suis arabe, je ne peux pas être nazi. Enfin, bon. Donc, moi dans mon camp, je suis d'extrême gauche, je suis écologiste. Je ne peux pas être islamiste et penser que le 7 octobre, ceux qui l'ont vécu l'ont bien cherché. Donc, et puis manifester après en disant « Vive la résistance palestinienne », c'est un code que tout le monde connaît, ça veut dire « Vive le Hamas ». Comment ils passent de l'un à l'autre?
Je pense qu'ils passent de l'un à l'autre parce que, d'abord, ils ont fait cette opération depuis...
C'est la
fascination de la force, mais ils ont fait aussi une opération sur laquelle ils travaillent depuis très 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 longtemps. Sur le thème, ils ont commencé évidemment, bien sûr, sur Israël égale l'apartheid, puis aller de plus en plus, pour de force faire endosser à Israël les oripeaux du fascisme. Ça, ils travaillent dessus depuis, ça fait des décennies qu'ils travaillent dessus, que vous avez des textes de cette manière. Vous savez, l'extrême gauche en France, alors aussi à l'étranger, mais particulièrement en France, n'a jamais été anti-totalitaire. Elle a toujours été antifasciste. Et comme elle a toujours été antifasciste, elle a cherché évidemment l'adversaire fasciste. Mais l'adversaire qui est le totalitarisme, qui est le mal du 20e siècle, c'est-à-dire le totalitarisme, ils sont toujours passés à côté. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas vu et ils ne le voient toujours pas. C'est-à-dire qu'ils considèrent que, alors que le Hamas est fondamentalement, aussi bien dans sa structure, on va dire Hannah Arendt, que dans son action, un mouvement totalitaire, il ne le voit pas. Pour eux, ce n'est pas un problème. En revanche, si quelque chose peut ressembler à leurs yeux, collé à l'idée fantasmée qu'ils se font du fascisme, alors là, c'est parfait. Et évidemment, ils foncent. Et comme ils n'ont aucun autre discours que celui-ci, ils n'ont pas de discours sur l'évolution sociale, la place des ouvriers, sur la place du peuple, ils n'ont pas de discours, enfin, soyons sérieux. Eh bien, ils choisissent évidemment la voie de la facilité, c'est-à-dire d'adopter ce discours Israël égale le fascisme. Voilà, donc plus l'Amérique, bien sûr. Donc c'est une intoxication, c'est une auto-intoxication. Et je crois que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que là, on a des générations qui vont considérer toujours, évidemment, bien sûr, que le Hamas n'est pas totalitaire, même quand on leur rappellera des faits, mais simplement les faits.
Mais je ne sais pas, moi, par exemple, prendre des grands-mères en otage, quel intérêt pour la résistance, faire une chose pareille? Je ne parle même pas des petits bibas, des grands-mères.
Non, mais...
Prendre en otage des grands-mères, ça sert la résistance de faire une chose pareille?
Jamais vu, de toute façon, la résistance. Enfin, c'est un non-sens. Ouais. Vous savez, c'est là où on voit l'actualité d'un grand auteur comme Orwell. hein, qui dit dans Orwell, la novlangue, c'est de dire voilà, le jour c'est la nuit c'est le jour. Enfin, et à force de le matraquer, d'en être autant convaincu.
Alors, ce sera quasiment ma dernière question, et je vais vous poser, et c'est celle-ci. Est-ce que Mélenchon a réussi à casser son jouet? Parce que hier, on avait deux manifestations à Paris pour, soi-disant, l'invalidation du grand, oui, du favori. 7000 du côté du Rassemblement National. Franchement, moi, à leur place, je ne l'aurais pas fait. Parce que 7000 pour ça, ce n'était pas la peine. Non, mais je parle sérieux en plus de ça. On invalide votre candidate à la présidentielle, vous êtes vraiment révolté. D'abord, premier constat, on est très loin des années 34. Ce n'est pas les ligues qui essayent de prendre l'Assemblée nationale, on sait déjà ça de prix. Mais surtout, quelle image de faiblesse. On nous a dit on va faire une démonstration de force, c'est une image de faiblesse. Mais bon, ça c'est pour l'Assemblée nationale. Mais puisque votre livre tourne autour de ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, j'aurais posé cette question. Ils sont sur la place de la République hier, ils sont 3000, hein, ils sont pas plus. Est-ce que quelque part, ça y est, Mélenchon a réussi à casser son truc en faisant trop, par l'outrance, par trop de communautarisme? Il y a un moment quand même, il y a des gens dans les banlieues qui trouvent que c'est trop. Moi j'entends même des gens d'origine étrangère qui disent c'est trop. Ouais. Et mon chômage, et l'éducation de mes enfants, c'est toujours le même truc, toujours le... Non, au bout d'un moment, l'islam, la Palestine. Est-ce que Mélenchon a réussi à casser la France insoumise, ou pas encore?
Moi, je pense qu'il ne l'a pas encore cassé.
Ah bon?
Non, je pense qu'il ne l'a pas encore cassé. En revanche...
Il est en forme, au contraire, il est en forme, il va prendre la mairie de Marseille.
Non, attendez, Marseille, je suis extrêmement prudent, hein, ouais, parce que c'est une ville qui est une ville éruptive, donc il peut se passer n'importe quoi. Et vu les challengers en face, aussi bien du Parti Socialiste que de la droite, on peut faire des grandes choses sur de l'OGLU, mais ils ne valent pas mieux, véritablement. Faut pas raconter d'histoire. Donc, non, il y a peut-être des villes qui peuvent en effet prendre. Vous savez, c'est toujours une question de... C'est toujours une dynamique en politique. Il continue à surfer sur une forme de dynamique. De toute manière, ce qui intéresse, un jour il me l'a dit, j'ai eu une très très longue conversation avec lui, il y a quelques années, il y a 5 ans, 6 ans, sur la terrasse, chez une terrasse chez moi, voilà.
Et, sur la terrasse, c'est où, avec Mélenchon?
Ouais, avec Mélenchon.
Et alors?
Très très longue. Et en fait, il m'a dit, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être président de la République. Ce qui m'intéresse, c'est... Et il s'est arrêté et il me dit, regardez, alors... En fait, il me dit, regarde Hollande, est-ce qu'il a été président, qui s'en souviendra et tout. Non, ce qui l'intéresse, ce qu'il veut, c'est écrire une page dans l'histoire, dans le grand livre de la gauche. C'est ce qu'il m'a dit. Je veux écrire une page dans l'histoire de la gauche. Et quand il me dit ça, et que maintenant je me rappelle ses propos, je me dis, ouais, il veut écrire une grande page de l'histoire de la gauche, même si ce sont avec des lettres de sang.
Waouh. C'est bien parce que ça lui fait un point commun supplémentaire avec Jean-Marie Le Pen, par exemple. Hein ? C'est bien, ils se ressemblent. Joseph Massescaron, merci. Excusez-moi pour cette incursion dans la vie politique, mais je ne peux pas avoir l'expert.
Non, mais le livre parle de politique. Le livre, c'est un polar, donc c'est haletant, c'est bien sûr, ça se lit très très vite. Mais ce que je veux aussi dans un polar, c'est qu'une fois qu'on l'a refermé, on puisse dire, ah bah tiens, j'ai appris plein de choses. Ça, je ne le savais pas.
Ah, mais avec vous, c'est sûr.
Un grand merci. Donc,
et d'ailleurs, j'ai d'ailleurs une idée, puisque là, maintenant, on va avoir les fêtes de Pâques qui arrivent. Des fois, on est invité quelque part. C'est une bonne idée d'offrir un livre. Et pas seulement une bouteille de vin ou de la nourriture. Un bon bouquin, ça fait plaisir. Et donc, moi, je conseille La Croix des Ténèbres de Joseph Massescaron, paru aux presses de la Cité. Je vous remercie, Joseph.
Merci d'être venu nous voir. Merci.